L'émission de littérature avec, en direct par téléphone, Pascal Arnaud, éditeur aux éditions Kidam. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous en direct par téléphone.
Bonsoir. Vous venez de publier la biographie que Jonathan Coe consacre à B.S. Johnson.
À la lecture de cette biographie, on n'a pas l'impression de lire une biographie, tant sa construction pourrait ressembler à l'image que l'on se fait d'un roman de B.S. Johnson. Quelle ambition Jonathan Coe a placée dans cette biographie ?
Alors, l'ambition, je ne sais pas, il aurait fallu lui poser la question directement, mais pour avoir été dans 4-5 librairies avec lui en sa compagnie, et donc avoir eu longuement l'occasion de parler de cette biographie très singulière, ce que je sais, c'est que au départ de son travail, donc, qui a couvert à peu près 8 années, mais bon, c'était une passion qui l'habite depuis l'âge de à peu près 20-25 ans, lorsqu'il était étudiant, et qu'il a découvert donc le premier ouvrage de B.S. Johnson, avec une citation de Beckett, qui s'appelait « Christy Mallory règle ses comptes », et donc c'est ce qui lui a donné l'envie de se plonger dans l'œuvre de cet écrivain, qui a eu une étrange résonance auprès de lui, au point même de l'imiter au départ dans son travail d'écrivain. Et donc, lorsqu'il a décidé de s'attaquer à cette biographie, il a commencé à faire les choses d'une façon très 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 classique. Et donc, pendant à peu près 2 ans, si je me souviens bien, de notre conversation, il s'est attelé à un travail tout à fait classiquement. Et puis, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, il s'est rendu compte qu'il était dans une impasse. Et donc, il a littéralement tout chamboulé. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris vraiment un point de vue personnel. C'est-à-dire que dès la première page de cette biographie qui est consacrée à B.S. Johnson, la première chose qui apparaît, c'est le jeu, mais le jeu de Jonathan Coe. C'est-à-dire qu'il se met littéralement en situation, quoi. Et il se met en situation comme on ne peut pas s'y attendre. C'est-à-dire qu'il se met en situation en tant que jeune adolescent, qui à l'âge de 13 ans découvre un gros monsieur sur une plage. Et effectivement, c'est un court-métrage qui s'appelle Fat Man on the Beach, un court-métrage de B.S. Johnson. Et pourquoi il est devant la télévision, Jonathan Coe? Simplement parce que cette plage-là, c'est la plage sur laquelle il se rendait avec ses parents en vacances. Et donc, c'était plutôt curieux de la plage que du gros homme sur la plage. Mais curieusement, cette image restera dans la tête de Jonathan Coe. Et lorsque, quelques 10 ans plus tard, en tant qu'étudiant, il s'intéressera à l'œuvre de B.S. Johnson d'une façon détaillée, quoi. Et effectivement, donc, il y a eu tout un travail d'implication extrêmement personnel, ce qui fait que cette biographie, si j'en crois les gens qui l'ont lu, les retours, beaucoup de personnes pensent qu'elle est construite comme un roman et qu'elle fonctionne même comme un roman. Et ce qui est intéressant pour moi en tant qu'éditeur de B.S. Johnson, c'est de voir que cette biographie est presque à l'image de certains des romans de B.S. Johnson, c'est-à-dire quelque chose d'éclaté, de fragmenté. Et effectivement, Jonathan Coe, qui a eu accès à toutes les archives personnelles de B.S. Johnson, que personne n'avait eu ou vu auparavant, au point qu'il s'est même installé dans la maison de la veuve de B.S. Johnson, Virginia, pendant plusieurs années, et a fouillé tous ses papiers, etc. Donc il a littéralement utilisé toute une matière qui est de l'ordre de poèmes, de fragments, de correspondances, de manuscrits délaissés, de premiers jets, etc. Et donc en fouillant dans ses archives, qui représentaient quelque chose comme 7 ou 8 caisses, je crois, pleines, et bien il s'est petit à petit amusé à construire, alors je dirais à la fois amusé et admiré le travail, puis parfois être littéralement agacé par le personnage, de B.S. Johnson en fonction de ce qu'il pouvait décrire ou découvrir au fur et à mesure de l'avancée de son travail.
Alors,
c'est une façon très personnelle d'aborder la biographie, c'est-à-dire une implication totale. Et en même temps, c'est un travail extrêmement fouillé qui n'est pas une hagiographie, qui en même temps est très très critique par rapport à certaines dépositions de B.S. Johnson quant à la fiction. Parce qu'effectivement, au fil des années, on peut dire que si Jonathan Coe a été influencé littéralement par B.S. Johnson au départ, par la suite, il s'en est très fortement éloigné. Mais en même temps, je crois que le maître mot de ce travail, c'est le respect. C'est-à-dire le respect qu'il paye à quelqu'un d'une génération précédente et qu'il paye non seulement en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'écrivain.
Ma deuxième question portera directement sur B.S. Johnson. Qu'est-ce qui caractérise pour nous, lecteurs français, qui connaissons très très peu B.S. Johnson, qu'est-ce qui caractérise une fiction de cet écrivain ?
Je dirais qu'il n'y a pas une fiction de cet écrivain. B.S. Johnson, en l'espace de 10 ans, a écrit 7 romans. Ils sont tous différents les uns des autres. Ce qui peut peut-être les relier, c'est disons l'héritage sur lequel s'appuie B.S. Johnson pour s'inscrire dans une espèce de lignée qui irait de Tristram Shandy, de Laurence Sterne, qu'il admirait absolument, en passant par Joyce et Samuel Beckett, pour lequel il avait à la fois une profonde admiration et beaucoup d'amitié, parce que ils ont eu l'occasion de se rencontrer et Samuel Beckett l'avait qualifié donc d'écrivain des plus doués et qui mérite bien plus d'attention qu'il n'en a eu jusque-là. Et donc c'est une citation qui a été qu'avait écrite Beckett dans une de ses correspondances et B.S. Johnson, qui était très soucieux de faire parler de lui, l'avait utilisé pour justement le lancement de Christine Malry règle ses comptes. B.S. Johnson était à son époque une véritable star des lettres, c'est-à-dire qu'il avait une reconnaissance critique très très forte de la part des sommités, hein, donc là Samuel Beckett, mais Anthony Burgess, le pape de la critique littéraire à l'époque, Malcolm Bradbury ou Margaret Drabble. Il était très suivi, mais il avait l'art et la manière de faire parler de lui aussi. Et en même temps, il était le leader de quelque chose qui aurait pu peut-être correspondre à un pendant du nouveau roman, sauf qu'il était très seul. Et c'était quelqu'un qui a été très rapidement qualifié d'expérimental, alors que Johnson, lui, ne vivait pas des choses comme ça. C'est-à-dire que lui, il voulait effectivement ne pas rentrer dans le train-train du roman dickensien, je veux dire le roman à la Balzac, quoi, une espèce de narration classique. Et lui, il voulait faire exploser ces codes-là. Et effectivement, donc, à l'époque, c'est le roman victorien qui est toujours mis en avant. Et bon, lui, c'était quelque chose qui trouvait absolument insupportable. Et donc il s'est distingué effectivement en travaillant beaucoup la forme dans chacun de ses livres. Il y a quelque chose qui est lié à la forme, mais je dirais avec le recul, ça peut paraître parfois des gimmicks, mais je crois que même lorsque ce sont des gimmicks parce que certains ont pu qualifier de gadgets, il n'y a jamais de gratuité, c'est-à-dire que chacun des gimmicks a véritablement une fonction, et le plus étonnant, c'est que ça marche. Et donc, effectivement, à l'époque, dans les années 60, il était à la fois très à contre-courant, parce qu'il aurait pu se rattacher aux jeunes hommes en colère, de Angry Men, et il n'était pas tout à fait là-dedans, il n'était pas tout à fait dans le postmodernisme, donc il avait le cul entre deux chaises, et l'image de l'éléphant est tout à fait juste, c'est-à-dire que c'était vraiment quelqu'un qui rhumait beaucoup, il était excessivement imposant physiquement, et effectivement il dérangeait beaucoup de monde, en particulier l'établissement littéraire, d'autant plus qu'il était issu de la classe ouvrière. Et donc, chacun de ses livres met en place, en jeu, toutes sortes de choses comme ça, où effectivement il bouscule les codes traditionnels du roman, il les fait même exploser. Si on prend Albert Angelo, qui est l'histoire, assez classique d'un architecte manqué qui, comme il n'a pas de travail, doit se retrouver professeur remplaçant dans des écoles socialement très difficiles. Et donc il est confronté à ses élèves, et donc le roman se construit presque de façon classique, jusqu'à un moment donné où il y a une espèce de chapitre qui apparaît brutalement après une injonction de l'auteur qui dit « râle cul tous ces mensonges ». Et on rentre dans une partie qui s'appelle « désintégration », et qui, là, en 7-8 pages, est un véritable programme littéraire dans lequel on va retrouver le motif essentiel de Bill Johnson, c'est-à-dire raconter des histoires, c'est raconter des mensonges. Et Johnson faisait vraiment un distinguo entre la fiction et le roman, c'est-à-dire que, par exemple, dans Chalut, beaucoup ont dit que c'était une autobiographie, et lui disait non, c'est un roman, et je peux montrer que c'est un roman, mais que ce n'est pas de la fiction. Et donc il y avait profondément dans tout son travail un attachement à vouloir dire la vérité d'une façon absolue. Et moi, en tant qu'éditeur, c'est ce qui m'a tout de suite plu chez lui, c'est-à-dire quel que soit le livre, il y a une façon d'être excessivement honnête vis-à-vis de soi-même, quoi. Et on voit cette honnêteté d'une façon très très forte dans des ouvrages comme Les Malchanceux, le livre boîte qu'on ouvre et qu'on bat comme un jeu de cartes, parce que tous les chapitres ne sont pas reliés et on peut les lire dans n'importe quel ordre, mais où Johnson est totalement pris dedans. Et l'autre aussi, bon, c'est Chalut, effectivement, qui raconte cette histoire où Johnson s'embarque pendant 3 semaines sur un chalutier de haute mer. Évidemment, il est malade comme un chien, les matelots se foutent de sa gueule et l'appellent le plaisancier. Et il est venu là, en fait, pour faire le point et, comme il le dit, plonger le filet dans son inconscient pour en remonter la quintessence de ce que ça a été sa vie jusqu'à cet âge-là, quoi. Et après, bon, il y a des livres qui sont un peu plus tournés vers la fiction. Donc, c'est les deux derniers, ces deux premiers que j'ai publiés, qui s'appellent R.A.S. Infirmière Chef, une comédie gériatrique, et Christy Malry règle ses comptes. Où là, effectivement, le système de Johnson par rapport à son exigence absolue quant à dire la vérité, bifurque sensiblement vers quelque chose qui est beaucoup plus fictionnel. Et moi, mon grand regret, c'est de voir que ce type-là s'est suicidé à l'âge de 40 ans, alors qu'il était en pleine possession de ses moyens, mais peut-être effectivement dans un creux de sa vie, une dépression qui traînait depuis la petite enfance. Et la bio de Coe montre bien ça, c'est-à-dire comment cet homme-là s'est laissé bouffer littéralement par de l'affect qu'il n'arrivait pas à maîtriser. Et s'il avait rencontré un très bon psychanalyste, je pense que il aurait échappé au suicide et ça aurait été un immense écrivain, quoi, parce qu'il aurait été obligé d'aller bien au-delà de son système un peu orthodoxe et un peu têtu, quoi.
Pourquoi, du coup, il y a cet oubli français du cas B.S. Johnson? Comment se fait-il que la France l'ait ignoré alors qu'il était à l'avant-garde littéraire dans les années 60 en Grande-Bretagne, que c'est un grand nom là-bas?
Et d'abord, il était très isolé, même s'il faisait beaucoup parler de lui. Disons qu'à cette époque-là, donc à le début des années 70, il est avec des gens comme Alan Burns, Eva Fidges, Anne Quinn. Donc Eva Fidges ne va être publiée en France que à la fin des années 80. La seule exception, c'est Anne Quinn. Il y a deux de ses livres qui sont publiés par Gallimard à cette époque-là, mais pas plus, ça s'arrête là. Et puis donc Anne Quinn se suicide également en se noyant comme à la manière de Virginia Woolf, en rentrant dans la mer. Et Donc voilà, il est assez isolé, il n'y a pas de mouvement comme, comme l'Oulipo, le nouveau roman, etc. Donc il est venu, à l'époque, il est né de Nathalie Sarraute, donc et Rob Grillet, il s'intéressait à ça, mais de son côté, il ne se passait rien. Moi, je pense que Bia Johnson a été proposé à des écrivains, à des éditeurs à l'époque, sans doute par l'intermédiaire de Samuel Beckett, et puis il y avait des agents hein, qui faisaient leur travail, quoi, etc. Mais c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que lorsqu'on est très isolé, ben, c'est très difficile de se faire, de se faire connaître, quoi. Mais il aurait été entouré d'un mouvement comme, je sais pas, comme l'Italien Calvino ou Pérec avec l'Oulipo et puis Robrier sa route avec le nouveau roman. Bon, ben, je pense que effectivement, il aurait eu plus de chances d'être édité. Mais voilà, il vendait pas énormément non plus. Hein. Donc, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire qu'il avait des critiques dithyrambiques. Mais la chose qui l'a vraiment profondément peiné, c'était de voir qu'il n'avait pas non plus une reconnaissance populaire à laquelle il rêvait, quoi. En même temps, bon, lorsqu'on regarde ses livres et qu'on connaît, disons, le côté un peu mouton de panurge qu'il peut y avoir, effectivement, chez certains lecteurs, bon, ben voilà. Les gens passaient à côté, quoi. Un type qui fait des trous dans les livres ou qui utilise le double colonnage ou qui utilise beaucoup de blanc pour indiquer toutes sortes de choses, donc qui met même des pages blanches ou des pages noires dans ses bouquins. Bon, ben voilà, c'est quelque chose qui passe pas et c'est pour la raison pour laquelle il a été qualifié d'expérimental. Mais ça, c'est une façon de ranger les gens et les mettre de côté pour pas qu'ils dérangent, quoi. Mais je pense qu'il était excessivement isolé. Et c'est vrai qu'un de ses rêves, c'était vraiment d'être traduit en français, quoi. Parce qu'il pensait que le public français aurait moins de réticence que le public anglais.
Eh bien, merci beaucoup, Pascal Arnaud, d'avoir répondu à mes questions en direct pour nous parler de B.S. Johnson. Merci beaucoup à vous.